Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague. La France a officiellement remercié les médecins tchèques qui ont soigné les soldats attaqués en Afghanistan. La République tchèque ne veut pas abandonner ses avions de chasse Gripen après 2015. 5 personnes sont mortes de froid ce jeudi en République tchèque. Le général français Gérard Nedelec, directeur général du service de santé des armées, a officiellement remercié les médecins et les aides-soignants tchèques qui ont soigné à la base de Kaboul les soldats français attaqués le 20 janvier dernier par un soldat de l'armée afghane qui a ouvert le feu avec une arme automatique. Gérard Nedelec a envoyé sa lettre de remerciement à son homologue tchèque. Il a souligné le travail excellent du personnel tchèque parmi la vingtaine de militaires français touchés lors de cette attaque sur la base de Gwan dans l'est de l'Afghanistan. 4 sont décédés, une quinzaine d'autres soldats ont été blessés, dont 8 gravement. Du personnel tchèque travaille à l'hôpital militaire français qui se trouve à proximité de l'aéroport de Kaboul. Les médecins tchèques se sont occupés de 2 des soldats français grièvement blessés. La République tchèque n'a pas abandonné ses avions de chasse après 2015 lorsque s'achèvera le contrat de location des 14 Yas 39 Gripen. Ces appareils sont prêtés par la Suède pour une période de 10 ans. La décision a été prise mercredi par le gouvernement. Le ministre de la Défense s'apprête à entamer de nouvelles négociations afin de prolonger le contrat en cours. Dans un passé récent, le premier ministre Petr Nečas avait pourtant déclaré qu'un nouvel appel d'offres serait lancé en 2015 pour la location de nouveaux avions. 153 nouveaux cas de séropositivité ont été détectés en République tchèque en 2011. Il s'agit du 3e total annuel le plus élevé depuis 1985 et la mise en place du dépistage du virus VIH-Sida en République tchèque. Ce diagnostic concerne 139 hommes et 14 femmes. La maladie s'est déclenchée chez 20 personnes et 13 en sont mortes. Les chiffres ont été communiqués ce jeudi par le Centre national de lutte contre le Sida. En 26 ans, le virus VIH-Sida a été diagnostiqué chez presque 1700 personnes en République tchèque. Le froid qui frappe actuellement la République tchèque a fait ce jeudi 5 morts. 300 abris ont été retrouvés morts à Prague. 2 autres victimes ont été enregistrées à Ostrava, en Moravie du Nord, et à Hotkovice nad Mohelkou, dans la région de Liberec, dans le nord de la Bohême. En raison du grand froid qui règne ces derniers jours en République tchèque, une tente chauffée a été dressée mercredi sur l'île des Rouens dans le 8e arrondissement de Prague pour accueillir une cinquantaine de personnes sans domicile fixe. La vague de froid a fait au total 143 morts en Europe. En République tchèque, le froid a également compliqué les transports ferroviaires et routiers. Environ 300 étudiants ont manifesté ce jeudi devant le siège de la faculté des droits de l'université de Bohême de l'Ouest de Plzeň. Ils ont protesté contre la décision de la commission d'accréditation du ministère de l'Éducation de retirer à la faculté le droit de délivrer des diplômes de second cycle. Les 1800 étudiants inscrits en droit seront par conséquent réorientés vers d'autres facultés du pays. Les manifestants ont signé une pétition adressée au ministre de l'Éducation. Plus de détails dans Fais événements en République tchèque. Et puis, environ 200 personnes ont manifesté ce jeudi après-midi à Prague contre l'accord commercial anti-contrefaçon signé à Tokyo la semaine dernière. La manifestation a été organisée par le parti pirate tchèque. Ce dernier a fait savoir qu'il cherchait un moyen de boycotter le traité signé par la République tchèque. L'accord ACTA porte atteinte aux libertés civiques. En République tchèque, nous sommes persuadés que le Parlement ne devrait pas le ratifier, a déclaré le vice-président du parti pirate, Mikuláš Ferjenčík. Côté météo, vendredi, jour de la fête des Blagueil, un temps sec, ensoleillé et très froid continue de régner sur l'ensemble du territoire tchèque. La nuit, le mercure descendra jusqu'à moins 25 degrés. La journée, les températures maximales varieront entre moins 15 et moins 9 degrés. C'était les informations de Radio Prague par Magdalena Hrozinková. Je vous retrouve dans la seconde moitié de notre programme présenté aujourd'hui par Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Madeleine ou Magdalena si vous préférez pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité, pas le grand froid que nous avons déjà évoqué dans notre émission mercredi, mais la prochaine fermeture de la faculté de droit de l'université de Bohême de l'Ouest à Pelzaigne, conséquence d'un vaste scandale de plagiat et de falsification de diplômes. La commission d'accréditation du ministère de l'Éducation n'a pas reconduit le droit de la faculté à délivrer des diplômes de second cycle, une décision qui touche près de 2000 étudiants, comme nous l'entendrons plus en détail dans quelques instants. C'est de chevaux dont il sera ensuite question. Robert Dartois, le directeur de l'École nationale d'équitation de Saumur, soit ce qui se fait de plus prestigieux en matière d'équitation en France. Robert Dartois, donc, était de passage à Prague en début de semaine. Il nous dira pourquoi. Et puis, comme chaque jour, la seconde partie de notre programme sera consacrée à une rubrique. Aujourd'hui, dans les Tchèques célèbres et moins célèbres, portrait de Irgina Prekopova, la psychologue tchèque sans doute la mieux connue dans le monde, une psychologue qui affirme qu'il n'existe pas d'amour sans conflit. Mais en attendant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous. Comme annoncé en titre, la faculté de droit de l'université de Pelzaigne devrait donc définitivement fermer ses portes, et ce au plus tard, avant le 31 octobre prochain. La commission d'accréditation du ministère de l'Éducation n'a en effet pas reconduit le droit de la faculté de délivrer des diplômes de second cycle. Les 1800 étudiants inscrits en droit seront par conséquent réorientés vers d'autres facultés du pays. Plus de précisions avec Paul Bauer.
Plus de 2 ans après l'éclatement du scandale de plagiat et de falsification des diplômes au sein de la faculté de droit de l'université de Bohême de l'Ouest à Pelzaigne, la commission d'accréditation du ministère de l'Éducation a annoncé qu'elle ne prolongerait pas le droit donné à la faculté de délivrer des diplômes de master. Cette décision signe donc la fermeture de la faculté avant le début de la prochaine année universitaire. On se souvient qu'il y a 2 ans, la directrice de la commission d'accréditation des diplômes et professeure en sciences politiques à l'école supérieure d'économie, Vladimira Dvořáková, avait dénoncé l'existence d'un système frauduleux permettant à des organisations criminelles de faire engager des fonctionnaires haut placés à des postes clés de l'administration publique et privée. Cette histoire sans précédent dans le pays avait en outre conduit au contrôle par le procureur général des diplômes de l'ensemble des représentants de l'État. Depuis cette affaire, la faculté est dans le collimateur de la commission chargée de veiller à la qualité de l'enseignement supérieur dans le pays. Or, au terme de 2 années de suivi de la qualité de l'enseignement, la commission a constaté que la situation ne s'était guère améliorée malgré les nombreux avertissements relatifs à des manquements graves dans la réalisation du programme d'études. C'est ce qu'a affirmé hier la présidente de la commission d'accréditation qui a rendu publique la décision. Malgré les avertissements répétés de la commission à l'adresse des responsables de la faculté de droit, l'annonce de la fermeture de l'établissement a été reçue avec surprise et a soulevé l'indignation des enseignants et des étudiants. Le doyen de l'université, Yann Paoli, dénonce le fait que la commission d'accréditation n'ait pas pris en compte le travail réalisé depuis juin 2011 par la nouvelle direction de la faculté. Celle-ci a en effet procédé à un renouvellement du corps enseignant dans le cadre de 3 campagnes de recrutement en vue de répondre aux critères définis par la commission. La représentante de la faculté de droit de Pelzaigne au sein du Sénat académique de la République tchèque, Rudolfina Knotova, rappelle à son tour ne pas comprendre la décision prise par la commission qui, selon elle, n'a pas pris la mesure des changements réalisés au cours des derniers mois.
Si je peux parler au nom des étudiants, je dois dire que l'annonce de la commission nous a profondément choqués. Personne ne s'y attendait. Il y a eu pourtant beaucoup de changements significatifs. De nombreux excellents pédagogues ont été récemment recrutés. Des pédagogues qui peuvent garantir l'enseignement, c'est-à-dire des gens qui disposent du titre de professeur et de maître de conférence. En outre, les enseignants qui n'avaient que des postes à temps partiel ont été recrutés sur des postes à temps plein. Tout a été fait afin de remplir des attentes de la commission d'accréditation et tous les responsables de la faculté ont le sentiment que toutes les attentes ont été honorées.
De son côté, le ministre de la Justice et ancien doyen de la faculté de droit de Pelzaigne reconnaît toutefois et non sans amertume que le sort de l'université a été scellé lors du départ l'an dernier du groupe d'enseignants proches du professeur de droit renommé Karel Eliáš. On écoute Jiří Pospíšil.
J'ai exhorté l'ancien doyen de la faculté, le professeur Růžička, à négocier avec les gens proches du professeur Eliáš afin que ces derniers restent dans la faculté. Avec leur départ, la faculté a dû fermer sans équivoque.
Si les étudiants de fin de second cycle pourront soutenir leur mémoire de diplôme avant le 31 octobre, date qui marquera la fin du droit de la faculté à dispenser les masters, les quelques 1800 autres étudiants seront toutefois contraints d'être réorientés vers d'autres établissements de la République tchèque. Pour l'heure, les étudiants de la faculté de droit ont annoncé par la voix de leur représentante Rudolfina Knotova la tenue ce jeudi d'une manifestation de soutien aux responsables de la faculté et signifié par la même occasion leur opposition vis-à-vis de la décision de la commission d'accréditation.
Directeur général adjoint de l'Institut français du cheval et de l'équitation et directeur de l'École nationale d'équitation de Saumur, Robert Dartois était de passage à Prague en début de semaine. L'Institut français de Prague avait en effet organisé une conférence intitulée « De la théorie à la pratique, cheval », durant laquelle sont intervenus Nadège Bourdon et Sophie Biot, respectivement écuyers du très prestigieux cadre noir et responsable du service recherche de l'École nationale d'équitation. Avant cette conférence, Robert Dartois a expliqué au micro de Radio Prague les raisons de sa visite en République tchèque.
Nous avons quelques jeunes tchèques qui sont venus à l'école, qui sont venus travailler sur plusieurs mois, sur des formations que nous faisons. Et on a senti fortement qu'ils voulaient faire connaître à leurs compatriotes ce qu'était le cadre noir, l'École nationale d'équitation. Et donc est née une première collaboration, puisque Nadège Bourdon, qui est écuyer du cadre, un écuyer féminin du cadre, vient de passer 2 jours à quelques 150 km de Prague pour faire une séance de formation et faire mieux connaître le travail qu'on fait sur le plat et à l'obstacle.
Cela veut-il dire qu'on peut envisager une collaboration approfondie entre notre centre et la République tchèque et dans quel domaine plus précisément ?
Alors, nous, si on nous sollicite, et surtout avec des pays de l'espace européen, si on nous sollicite, on essaie de répondre présent en fonction de nos plans de charge et autres. Bon, ça a été l'exemple là, mais ou la Fédération tchèque d'équitation ou d'autres structures nous demandent des interventions, dans la mesure de notre possible, on peut le faire, oui.
Et concrètement ?
Concrètement, ça peut être ce qui a été fait là ce week-end, ça peut être aussi des choses d'une plus grande ampleur avec des conventions de partenariat assez étoffées comme on l'a avec d'autres pays de l'Europe centrale.
Alors justement, vous avez organisé il y a quelque temps un spectacle gala en Hongrie. Là aussi, il y a une certaine forme de collaboration qui fonctionne déjà. Est-ce que la Hongrie constitue pour vous une source d'inspiration par rapport à Prague ?
Alors, on va pas copier. Effectivement, on est allé en gala à Budapest en octobre 2008. Depuis, on a étoffé les relations avec l'Académie équestre de Kaposvár, où on a presque tous les ans maintenant, on a des écuyers qui vont participer à des formations ou participer à des jurys d'examen. Mais il ne faut pas faire toujours de l'analogie. Je veux dire, je pense que si on nous demande des interventions, si on nous demande de préparer des relations de partenariat, il faudra le faire à partir d'une analyse du vécu ici et puis de la demande des gens et de savoir comment on peut y répondre. Mais c'est quelque chose qui est faisable. Effectivement, on n'a jamais de schéma préétabli qu'on essaierait de plaquer sur la réalité. On essaie plutôt de s'adapter, de répondre aux demandes des gens qui souhaitent travailler avec nous.
Outre cette éventuelle collaboration avec la République tchèque, Robert Dartois était à Prague également pour envisager l'organisation dans un avenir plus ou moins proche d'un gala des chevaux et des écuyers du cadre noir de Saumur. Cette représentation pourrait être organisée dans l'ultra-moderne O2 Arena de 17 000 places. Robert Dartois nous en a dit plus sur ce spectacle.
C'est de faire mieux connaître ce qu'est la spécificité de l'équitation à la française. Donc nos galas sont construits d'une certaine manière qu'on veut un peu didactique, c'est-à-dire au début, on explique beaucoup de choses aux gens pour qu'ils aient les clés de lecture de ce qu'ils vont voir.
Concrètement, comment ça se passe ?
Ben, on fait une démonstration d'un écuyer seul, fait une démonstration de toutes les figures de l'équitation académique avec un commentateur qui explique pourquoi et comment on fait ce type de mouvement. Parce qu'après ces mouvements, on va les retrouver dans des ensembles plus grands. Et de la même manière pour ce qu'on appelle les sauteurs, c'est-à-dire ceux qui font les différents sauts d'école, que sont la croupade, la courbette et la cabriole. On explique comment ça fonctionne, de manière à ce qu'au moment où ça se fait, après dans l'ensemble, le spectateur puisse voir. Donc l'intérêt, la manière dont on a construit nos spectacles, c'est qu'ils soient lisibles à tout niveau de compétence du cheval. On peut être particulièrement... particulièrement technicien et apprécié, mais on peut être aussi quelqu'un qui simplement a envie de voir quelque chose qui est beau et arriver à le déguster parce qu'on aura donné auparavant un certain nombre de clés pour pouvoir le lire.
Voilà, c'était donc Robert D'Artois, directeur de l'École nationale d'équitation de Saumur. Vous pourrez entendre l'intégralité de cet entretien dans une prochaine rubrique sportive. Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme. Comme tous les 15 jours, la seconde partie de ce programme est consacrée aux Tchèques célèbres et moins célèbres. À 82 ans, Jiřina Prekupová est probablement la psychologue tchèque la plus connue et reconnue dans le monde. Installée depuis 1970 en Allemagne, Jiřina Prekupová semble dotée d'une énergie inépuisable. Traduite dans une vingtaine de langues, elle continue à écrire, publier, donner des conférences, des interviews et à animer des séminaires aux quatre coins de la planète, notamment dans son pays d'origine, en Slovaquie, en Allemagne, en Autriche ou encore en Amérique du Sud. Le destin de Jiřina Prekupová est tout aussi fascinant que son œuvre. Par des chemins tortueux, elle est arrivée à sa méthode de travail unique et à succès, une méthode appelée désormais la thérapie de l'étreinte, selon Jiřina Prekupová. Cette thérapie vise la réconciliation au sein d'une famille, entre parents et enfants, petits ou adultes, ainsi qu'entre conjoints. Jiřina Prekupová est l'invitée de Magdalena Rozinková dans les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
J'ai commencé mon travail de psychologue bien avant d'étudier la psychologie à l'université. Petite fille, je me demandais comment me comporter avec mes parents pour ressentir leur amour. Se souvient dans l'un de ses livres Jiřina Prekupová, psychologue qui a consacré toute sa carrière professionnelle et toute sa vie à ce qui est de plus beau, de plus fort et de plus fragile au monde, à l'amour. À l'amour inconditionnel que tout d'abord les parents devraient offrir à leur enfant pour qu'il soit heureux dans la vie et pour qu'il puisse à son tour aimer soi-même et les autres. Jiřina Prekupová.
Je crois que l'amour est une valeur suprême. Sans amour, nous ne serions pas de véritables êtres humains. Ce qui nous rend humains, ce n'est pas la marque de notre voiture, ni la somme sur notre compte bancaire, mais ce sont nos relations avec les autres et aussi notre rapport à la nature et aux animaux. Cela s'apprend dans le milieu familial. Nulle part ailleurs, un enfant ne peut apprendre ce que c'est que l'amour.
Jiřina Prekupová est née en 1929 à Prostějov, en Moravie. Jeune fille, elle rêve de voyager dans des pays lointains, de faire du théâtre ou du journalisme. Finalement, elle se lance dans les premières années qui suivent le putsch communiste de 1948 dans des études de philosophie et de psychologie à l'université de l'Olomouc. Pas facile pour une jeune fille sincère, courageuse, profondément anticommuniste et habituée à ne pas cacher ses opinions. Elle termine ses études au début des années 50, mais n'obtient pas son diplôme et les autorités lui interdisent d'exercer le métier de psychologue. Avec une bande d'amis, Jiřina Prekupová part alors dans les Sudètes, au nord du pays, dans une région où le régime installe des exclus. Des opposants, des délinquants, des tziganes et des prêtres orthodoxes y vivent aux côtés des Allemands qui ont échappé au rapatriement d'après-guerre. Jiřina et ses amis deviennent enseignants dans une école primaire et organisent toutes sortes d'activités destinées aux enfants et aux adultes. Spectacles de théâtre amateur, concerts, célébrations des fêtes. Ils offrent aussi aux familles en difficulté ce que l'on appelle aujourd'hui assistance sociale et psychologique. Dans une émission télévisée, Jiřina Prekupová s'est souvenue d'une expérience de cette époque-là qui l'aura marquée pour toute la vie.
À chaque fois que je donne une conférence sur des enfants difficiles, je me souviens d'un garçon, Pepi Klepeš, que j'ai eu en classe. Chaque enseignant redoute un élève pareil. Il était hyperactif, agressif et incitait les autres garçons à faire des étourderies. Je ressentais même de la haine envers lui et j'avais peur d'entrer dans ses classes. Un jour, je l'ai vu écrire correctement dans son cahier. Cela m'a ému. Je savais que cet enfant était délaissé. Il vivait seul avec son père alcoolique. Sa mère était une prostituée et elle les avait quittés. Instinctivement, j'ai caressé ses cheveux roux et je lui ai dit « Pépik, tu es un brave garçon, tu sais. Voudrais-tu m'aider à fabriquer des décors pour notre théâtre ?» Il était ravi. Finalement, nous avons eu une très bonne relation. Je me sentais un peu comme sa grand-mère et je ne l'oublierai jamais. Au bout de 3 ans, les amis de Irina Prekopova quittent les Sudètes et elle-même attrape le typhus. À l'hôpital, dans un état sérieux, la jeune femme trouve sa vocation, celle de renouveler l'amour au sein des familles. Rétablie de sa grave maladie, elle retourne chez ses parents et exerce diverses professions ouvrières. Et se marie à Valentin, un ancien prisonnier politique slovaque, à la santé fragile du fait d'avoir été forcé de travailler pendant de longues années dans des mines d'uranium. Une raison peut-être aussi pour laquelle le couple n'aura pas d'enfants. En 1970, Irina et son mari quittent la Tchécoslovaquie communiste et s'installent en Allemagne de l'Ouest. Irina Prekopova travaille d'abord comme assistante dans une banque pour revenir enfin à sa profession de psychologue. Elle se consacre au travail avec des personnes handicapées mentales et avec des autistes, s'intéresse à la psychologie de l'enfant, écrit entre autres le célèbre ouvrage Mali Teran, le petit tyran, sur les enfants dominateurs. Dans nos sociétés autistes, comme les appelle Irina Prekopova, où chaque membre de la famille est enfermé dans sa chambre, cloué devant la télévision ou devant son ordinateur, il est essentiel, selon la psychologue, que les gens réapprennent à communiquer pour que l'amour puisse ressurgir. Irina Prekopova. Tout le monde a besoin d'amour, surtout les enfants et les jeunes, et tout le monde le souhaite. Mais nous n'avons pas appris à s'occuper de cet amour que nous voulons tant avoir. Les gens ne se rendent pas compte qu'il n'existe pas d'amour sans conflit. Les hommes et les femmes ont des goûts et des comportements tellement différents. En voiture, en faisant des courses et même en parlant. Là où l'homme s'exprime en 2 mots, la femme fait tout un exposé. Des conflits surgissent aussi entre parents et enfants, car leurs envies et besoins sont souvent opposés. Le problème est que plusieurs générations de gens n'ont pas appris à gérer ces conflits, donc à exprimer ce qu'ils ressentent, à partager ce que ressent l'autre, à l'aimer malgré ses défauts.
Se réconcilier avant que le soleil ne se couche, nous conseille Irina Prekopova, tout en constatant qu'en réalité, peu de gens en sont capables. Et c'est notre éducation, dont nos familles d'origine, qui en est responsable.
À l'époque où nous étions petits, nos coups de colère étaient punis de 2 manières. Nous étions soit giflés, soit renvoyés dans notre chambre ou enfermés quelque part. Nous étions donc punis par l'attaque ou par la fuite.
Ces comportements instinctifs et propres à tous les animaux, nous les répétons en cas de conflit dans nos vies de couple et en élevant nos propres enfants. Pour sortir de ce stéréotype qui mène aux ruptures familiales, Irina Prekopova nous propose le concept qu'elle a développé en s'inspirant notamment du travail de la psychologue américaine Martha Welsh et qui s'appelle la thérapie ou la méthode de l'étreinte. Le principe semble étonnamment simple. Le parent et son enfant ou les conjoints assistés par le thérapeute se tiennent fort dans les bras, parfois pendant assez longtemps, et se disent, en donnant libre cours à leurs émotions, ce qu'ils ressentent envers l'autre, sans se lâcher, sans s'agresser, sans s'enfuir. Cette méthode qui permet d'apaiser toutes sortes de traumatismes connaît, malgré certaines voix critiques, un succès indéniable partout dans le monde. Irina Prekopova et ses collaborateurs se concentrent ces derniers temps surtout sur la prévention des conflits familiaux. Avec cet objectif, ils organisent en République tchèque et ailleurs des cours d'une semaine ouverts aux professionnels et au grand public. Irina Prekopova explique.
Jusqu'à présent, nous avons formé en République tchèque une 100aine de personnes capables d'apprendre la thérapie de l'étreinte aux autres. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que ces personnes-là transmettent leur savoir-faire à d'autres familles. Souvent, il s'agit de sages-femmes, d'institutrices d'école maternelle, de prêtres qui préparent les couples au mariage. Ils s'intéressent tous à cette méthode-là. Elle se répand un peu par le bouche à oreille et d'après l'écho que nous en avons, il est évident que ça marche.
Détendre ten hlas toho nadšení a té radosti, že se to opravdu daří. Rencontrer Jesena Prekopova, venue récemment à Prague à l'occasion de la sortie d'un de ses ouvrages en tchèque, était un moment de joie. Chez elle, l'amour, la chaleur humaine, l'empathie dont elle parle si souvent ne sont pas des mots vides de sens. L'amour est sa façon de vivre, quelque chose que l'on ressent très fort en sa compagnie. Jesena Prekopova vit en Bavière, à Lindau, au bord du lac de Constance. Souvent en route entre Lindau, Prague et d'autres villes européennes, elle ne se prive pas du plaisir de conduire et même, avoue-t-elle, de conduire rapidement si l'occasion se présente. Depuis le décès de Valentin en 1986, Jesena Prekopova vit seule. Avec l'humour qui lui est propre et avec son joli accent morave, elle a constaté dans son portrait tourné par la télévision tchèque « Je crois qu'à mes 82 ans, riche de toutes mes expériences, je serai une épouse parfaite. »
Voilà, c'est donc avec ce portrait de la psychologue Jesena Prekopova que s'achève pour cette fois le bloc actualité préparé par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute du programme en langue française de Radio Prague. Ahoy.